Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on nous rapporte la guérison opérée par notre Seigneur de cet aveugle de Jéricho. Et on comprend dans le contexte de l'évangile que la cécité, puisque c'est comme ça qu'on appelle la maladie de ceux qui n'ont pas la vue, la cécité, de cet homme est consécutive à une vie de péché. Ça ne veut pas dire que toujours et en toutes circonstances, le bon Dieu châtie le pécheur, soit de telle ou telle maladie ou tel handicap. Mais il arrive, et il ne faut pas voir ce châtiment comme l'effet de la méchanceté de Dieu. Il arrive que le bon Dieu envoie justement des croix, parce que être privé de la vue, être privé de ses jambes, être privé de ses oreilles, ne plus rien entendre, avoir telle ou telle maladie, c'est toujours une croix lourde à porter. Mais ces croix sont une occasion pour ceux qui ont encore un petit peu de surnaturel au fond de leur âme, qui leur permet de réfléchir et de se tourner vers Dieu, eh bien c'est une occasion de conversion. De toute façon, il faut bien se souvenir que, en particulier, mais on pourrait même dire tous les péchés auront une conséquence à l'avenir. Vous le savez, il y aura le purgatoire. Et encore, faut-il aller au purgatoire? Parce que beaucoup n'auront pas la case purgatoire. Ce sera l'enfer pour les pécheurs invétérés, pour ceux qui refusent de croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, ils ne croient pas en lui, ils ne croient pas en sa miséricorde. Donc ils ne vont pas lui demander « Pitié, mon Dieu ». Mais s'ils ne demandent pas, ils ne l'auront pas. Combien sur cette terre sont loin de notre Seigneur Jésus-Christ? Non seulement parce qu'ils vivent dans le paganisme, dans de fausses religions, mais combien de chrétiens qui ont perdu la foi? Que leur reste-t-il? Que leur reste-t-il? Donc cet homme, comme tout autre homme, suite à sa vie de péché, est dans un état de vulnérabilité. Il est fragile, évidemment. Vous savez, quand vous êtes en pleine forme, que vous avez 25 ans, que vous avez vos oreilles, vos yeux, vos jambes, vos bras, bon, madame, vous pouvez lutter, n'est-ce pas? Vous pouvez affronter un sac de 50 kilos de patates, vous pouvez affronter un loustique qui commence à vous faire des ennuis, et c'est pas la même chose si vous êtes dans un état de maladie morbide, cancer généralisé, comme on dit, il n'y a plus que la peau sur les os, mais c'est pas le moment d'aller se bagarrer. Hein. Ou bien si vous êtes, comme notre aveugle là, privé de la vue. Ben vous ne voyez pas d'où les coups viennent. Il est à gauche, il est à droite, il est devant, il est derrière. Bon. On ouvre bien les oreilles dans ce cas-là. On dit d'ailleurs que les aveugles ont le sens de l'ouïe beaucoup plus développé. Je me souviens quand j'étais à Nantes avec M. l'abbé Guépin, on avait un organiste qui était aveugle. Je m'entendais bien avec lui. Mais alors, il reconnaissait au froufrou de la soutane, nous on ne fait pas attention, hein. Ça nous échappe ces bruits-là, mais il savait qu'il y avait une soutane dans les parages. Et alors, il me disait, parce que la moindre des choses, quand j'arrivais pour chanter à la chorale, je le saluais, il me saluait. Mais il savait me faire remarquer quand il y avait une autre soutane qui passait, ou bien quand il allait dans d'autres chapelles, entre autres le prieuré Saint-Louis, il me disait, j'entends les soutanes qui passent, mais ils ne viennent pas me saluer. Les aveugles ont le sens de l'ouïe très, très développé. Bref, l'état de cet homme, de l'Évangile, est un état d'handicap. On peut dire, d'une certaine manière, sa vie est en danger. Si personne vient à son secours, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Il mendie sur le bord du chemin. Il tend la main et il supplie les gens de lui donner une petite pièce, de lui donner un quignon de pain, quelque chose, un petit poisson. Parce que lui, que voulez-vous qu'il fasse comme travail quand vous êtes aveugle? Bien sûr, on peut toujours faire des petites choses, mais c'est difficile de gagner sa vie quand on est aveugle. Donc il est dans un état qu'on dirait de grande précarité. Sa vie est compliquée, difficile. Si on ne le protège pas, il peut se faire tuer, il peut mourir très facilement. Eh bien, voyez-vous, cet aveugle de l'Évangile, c'est l'image du pécheur. Pas du pécheur qui va dans la barque pour prendre des truites. Non, du pécheur que nous sommes. De celui qui s'éloigne de la loi de Dieu, qui offense le bon Dieu. De celui, quand il s'enfonce, évidemment, dans son péché, ne voit plus entre le bien et le mal. Celui qui chute et rechute. Vous voyez, les aveugles, ils ont leur bâton blanc, leur canne blanche, là, d'ailleurs, je trouve qu'ils sont très doués pour détecter, en tout cas en ville, les trottoirs, tout ça. Mais je suppose qu'ils doivent tomber beaucoup plus facilement que les gens qui ont la vue. Parce qu'il y a certains obstacles qui leur échappent. Pire, le prophète Isaïe dit que le pécheur invétéré, le pécheur qui croupit dans son vice, quel qu'il soit, prend le mal pour le bien et le bien pour le mal. Finalement, il prend les ténèbres pour la lumière. Quand notre corps est malade, si vous avez eu une infection, par exemple, de l'œil, bon, vous savez, c'est très gênant. Le matin, on se réveille, bon, on se frotte un petit peu les yeux, on braille, tout ça, et on allume la lumière, et tout de suite, bon, on y voit. On attend peut-être quelques minutes pour que ça fonctionne un petit peu mieux, mais enfin, on y voit. Et imaginez que vous êtes dans le brouillard. C'est pas possible, vous essayez de voir votre réveil, quelle heure est-il, ou sur votre portable. C'est tout flou, vous ne voyez rien du tout. Oh là là, vous commencez à vous poser des questions. Qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe? Et puis vous vous levez, vous passez de l'eau sur la figure, vous regardez l'œil sous toutes ses coutures, rien à faire, c'est toujours le flou. Vous n'allez pas attendre 6 mois pour téléphoner chez le médecin des yeux, là, pas comment on l'appelle, l'ophtalmo, là, ou le... Hein? Ah, madame, oui, je sais, c'est compliqué aujourd'hui, hein. Vous allez avoir peut-être bien plusieurs semaines ou plusieurs mois d'attente. Alors vous irez aux urgences. Voilà. Mais vous allez sûrement agir directement parce que vous vous inquiétez. Perdre un œil, c'est pas une affaire de rien. Si vous vous cassez le col du fémur, alors, ça c'est pas les jeunes, c'est les anciens. Hein. Bon, mais c'est pareil, vous n'avez pas dit au beau. Bricole de rien du tout. Ça marche tout pareil. Non, ça marche pas. Si vous avez le col du fémur de cassé, alors là, d'abord ça. Je l'ai pas eu moi, mais ça doit faire très mal. Et puis il n'y a pas moyen de marcher. Hein. C'est cassé, c'est cassé. Donc aux urgences, pareil, hein, on va vous opérer, ou soit on va mettre une prothèse, soit on va faire. Donc pour le corps, alors on va réagir. Je ne parle pas des petites choses. Non, parce que là, quand je parle du pécheur invétéré, évidemment, c'est un péché mortel. Et je sais bien que vous n'êtes pas tous en péché mortel. Certains peut-être. Pour des petites bricoles de rien du tout, je dirais, c'est comme pour le péché véniel, bon, on va pas aller chez le médecin, hein, parce qu'on a un petit rhume de rien du tout. On prend ces petites huiles essentielles, L52, je sais pas quoi, du thym, ce que vous avez l'habitude de prendre, et on va pas aller chez le médecin pour ça. Bon. Pour le péché véniel, on a de multiples façons d'obtenir le pardon de Dieu. On ne perd pas l'amitié du bon Dieu avec le péché véniel. On peut toujours s'approcher de la Sainte Table et accueillir dans notre âme Jésus Eucharistie. Ces péchés véniels peuvent être effacés par les prières, les bonnes œuvres, les actes de charité, les actes de foi, d'espérance, enfin, beaucoup de bonnes choses que l'on fait en état de grâce, puisqu'on n'a pas perdu l'état de grâce avec le péché véniel. Bon, il faut quand même penser à expier les péchés véniels. Si on ne le fait pas suffisamment, il faudra régler la facture au purgatoire. Et il y en a qui auront un purgatoire à rallonge, parce que ils n'auront pas voulu souffrir et offrir leur misère sur cette terre. Donc, je vous le disais, quand le corps est malade, là, on n'hésite pas un instant, quand c'est quelque chose de grave, on va chez le médecin. Et le misérable pécheur, qui est atteint mortellement par le péché qu'il a commis, ou les péchés qui se sont succédés pendant des semaines, des mois, des années, quand un pécheur, un grand pécheur, revient vers Dieu, « Mon Père, voulez-vous m'entendre en confession ?» Oui, bien sûr. Mais vous savez, je ne sais plus trop comment faire, parce que ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, je ne me suis pas confessé. Ça, c'est des choses qui nous arrivent à nous prêtres, d'avoir des pénitents comme ça. Bon. Alors, évidemment, là, vous imaginez un petit peu, hein. La confession ne dure pas 3 minutes, hein. Il y en a des choses. Cette âme, forcément, est blessée mortellement. Pauvre pécheur, s'était installé dans un état de, comme de léthargie, d'apathie, de dégoût spirituel. Sinon, il y a longtemps qu'il se serait relevé. Mais vous savez, quand le démon tient sa proie, il la lâche pas comme ça. Quand le chat tient la souris, des fois, il est maladroit, ça peut arriver. Mais il a de bonnes griffes, hein. Ou un chien aussi qui est furieux, qui est, après les. Je sais pas moi, s'il chasse les rats ou les bestioles, il a un choix. Le démon, c'est pire que ça. Parce que le démon, c'est pas l'instinct qu'il mène. Il a l'intelligence. Il est beaucoup plus intelligent que tous les grands scientifiques, que tous les grands politiques, et même beaucoup plus intelligents que tous les prêtres du monde, les prêtres catholiques. C'est un ange. déchu, certes, mais sa nature, il ne l'a pas perdue, sa nature angélique. Et donc, tous les coups fourrés, toutes les combines, sous apparence de bien, oh, il est malin, sous apparence de bien, combien de personnes se font avoir par le démon? Et ils s'en rendent compte, mais que trop tard, quand il y a la sentence qui tombe. Parce que la sentence va tomber, hein. Un jour ou l'autre, nous allons quitter cette vie, le bon Dieu va nous rappeler. Alors on n'a pas voulu voir, on n'a pas voulu écouter les conseils des prêtres, les conseils de la belle-mère, quelquefois. Mais oui, les belles-mères, des fois, donnent des bons conseils. Il ne faut pas, a priori, dire c'est la belle-mère, donc je me bouche les oreilles. Ou bien de tel ou tel ami, ou je ne sais pas quoi. Ou de tel sermon que vous avez pu entendre. Non, non, c'est pour la voisine. Ah, ben dis donc, elle l'a pris pour son grade. Hein. Non, mais moi, ça va. Hein. Attention. Bon, on n'a pas voulu écouter. Mais un jour, ça va nous tomber en pleine figure. Le Seigneur va nous dire, il y a ça dans ta vie. Non, 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 non. Tu as fait tes prières, tu as dit ton chapelet, mais ça, tu n'as jamais voulu capituler. Et ça, c'était de matière grave. J'ai fait de multiples efforts pour te le faire comprendre, te le faire admettre, tu n'as jamais voulu. Maintenant, c'est trop tard. Attention à l'aveuglement, à ceux qui se bouchent les oreilles pour ne pas entendre la vérité. Donc, le pécheur invétéré s'étourdit dans ce dégoût spirituel où il est, ben, dans ce qui est à la portée de sa main. La bouteille de Pernod, whisky, Ginette, Internet. Enfin, ce ne sont pas les occasions qui lui manquent pour replonger dans ses passions dépravées. Saint Augustin, avant sa conversion, on a eu un grand Saint Augustin, vous voyez, il ne faut pas perdre espoir. Hein. Il y a des grands pécheurs qui sont devenus de grands saints. Saint Augustin nous dit, j'étais aveugle quand il était dans le péché. Et j'aimais mon aveuglement. C'est horrible, hein? J'aimais mon aveuglement. Le pécheur n'est pas idiot. Parce que justement, le bon Dieu n'abandonne jamais le pécheur. Et Dieu envoie des signes sans arrêt, sans arrêt. Un petit peu comme, vous savez, quand on est dans la voiture, là, et puis qu'on est comme l'abbé Roger, qu'on ne met pas sa ceinture, bon ben. Ça ne dure pas, heureusement, pendant 100 km. Mais sans arrêt, pendant quelques minutes, bing, bing, pour nous rappeler, tu n'as pas mis ta ceinture, il faut mettre ta ceinture. Bon, alors là, ce n'est pas pendant 2 minutes que le bon Dieu nous envoie des ding, ding. Jusqu'à la fin, le bon Dieu va envoyer des signaux au pécheur pour l'avertir. Attention, attention, tu es en état de péché. Si tu mourrais. Donc c'est volontairement qu'on ferme les yeux. Mais malgré le fait qu'on ferme les paupières, le bon Dieu nous envoie des signaux d'une autre manière. C'est ainsi que le pécheur s'installe dans son péché, qui devient pour lui comme une nécessité. Pas nécessaire quand même de saouler, pas nécessaire de tuer les gens, pas nécessaire de frapper, de je ne sais pas quoi, enfin tout. Tous les vices capitaux, rien de nécessaire dans tout ça. Eh bien pour le pécheur qui est installé dans le mal, ça devient comme une nécessité. Rien ne le touche apparemment. Mais tout n'est pas perdu. Il a conservé la faculté d'entendre. Saint Paul nous dit « Fides ex auditu ». La foi par le sens de l'ouïe. À l'époque de notre Seigneur, c'était les prédications. Il n'y avait pas les publications. Je vous l'ai dit dimanche dernier, l'invention de l'imprimerie, ça n'arrivera que beaucoup plus tard, n'est-ce pas? Donc, les informations se transmettaient oralement. Les péchés qu'il a commis sont de toutes sortes. D'ivrognerie, de luxure, de méchanceté, de calomnie, de mensonge, enfin, gourmandise, de tout ce que vous voulez. La liste, si on veut établir la liste de tous les péchés mortels, elle est quand même assez étoffée. Hein. Mais, pas de péché contre la foi. Ça, c'est le pire de tout. Les péchés contre la foi. Ça vous montre un petit peu la situation où nous sommes aujourd'hui, où les gens ont perdu la foi. Ceux qui vous disent, vous n'êtes pas quand même resté au Moyen-Âge et croire que l'enfer existe. Les gens qui vous disent ça, ils ont perdu la foi. Combien de prêtres modernistes, je ne vais pas vous dire la plupart quand même, j'en sais rien, mais on m'a rapporté cette confidence qu'avait fait, pas si c'est vrai, Monseigneur Santaine, le soi-disant évêque de Vannes, conservateur, tu peux. Bon. Quand il est arrivé dans son diocèse à Vannes, il aurait dit, est-ce qu'il y a seulement un prêtre qui a encore la foi dans ce diocèse? Ça ne l'a pas fait changer d'orientation. Il a suivi les autres, le concile, la nouvelle religion et tout. Mais pour dire qu'ils ne sont pas tout à fait dans le brouillard, hein. Ils se rendent compte de certaines choses. Alors, oui, les péchés contre la foi, c'est terrible, parce qu'il ne reste rien. Le bon Dieu ne peut même pas appuyer, si vous voulez, sur cette pédale-là de la foi qui leur reste. Quand il reste la foi, tout n'est pas perdu. Donc, voyez, le grand malheur, bien sûr, c'est de perdre la charité, mais s'il nous reste encore la foi, l'espoir est permis. Très difficile, nous disent les auteurs, de ramener les hérétiques ou les apostats à la conversion. Bon, ceux qui sont dans l'hérésie, on va dire des protestants par exemple, qui sont nés là-dedans, c'est pas la même chose. Mais ceux qui ont quitté la vérité consciemment, c'est-à-dire l'Église, pour aller vers l'hérésie, les faire revenir dans le camp du vrai et du bien, très difficile. Ça frôle le péché contre le Saint-Esprit. Donc, le pécheur qui a gardé la foi a gardé quelque chose de surnaturel dans son âme. Parce que la foi, l'espérance, la charité, c'est surnaturel. Ce sont des éléments surnaturels. Quand on perd la charité, on perd l'état de grâce, l'état d'amitié avec le bon Dieu, mais on ne perd pas forcément la foi. Et on ne perd pas forcément l'espérance. Pour perdre l'espérance, il faut faire un péché de désespoir, comme l'a fait Judas, consciemment. Pour perdre la foi, il faut faire un péché contre la foi. Ipso facto, quand on fait un péché, évidemment, mortel contre la foi, on fait aussi un péché contre la charité. Hein. Mais l'inverse n'est pas vrai. Un péché contre la charité, c'est pas forcément un péché qui fait perdre la foi. Et donc, pour revenir à notre évangile, notre aveugle entend du bruit. Rappelez-vous, fides ex auditu, n'a pas perdu le... Qu'est-ce que c'est? Et on dit, c'est Jésus de Nazareth. Mais il sait qui est Jésus de Nazareth, il en a entendu parler. Comme le pécheur, qui n'a pas perdu la foi, sait les vérités de la foi. Il connaît son catéchisme. Il sait que s'il se jette aux pieds d'un prêtre validement ordonné et demande sincèrement l'absolution, il la recevra. Il retrouvera l'état de grâce. Donc, cet aveugle, quand il a compris qu'il s'agissait de Jésus, voilà que son cœur s'émeut et qu'il ouvre la bouche, car il n'est pas muet, et il s'adresse à notre Seigneur. Ayez pitié de moi. Jésus de Nazareth, ayez pitié de moi. Et l'Évangile nous dit que ceux qui étaient auprès de lui veulent le faire taire. Bon, qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette particularité-là? Quand le pécheur veut se convertir, c'est un mouvement, par le mouvement de la grâce, il est touché et il veut sortir de son péché. Tout le monde n'est pas d'accord. Le premier, c'est le diable ou les démons. Parce que peut-être que il a un certain nombre de démons qui le travaillent. Et puis, les complices du péché. Imaginez, pour reprendre un exemple historique, Hérode et sa belle-sœur avec laquelle il menait une vie de péché. Bon, vous imaginez que Hérode, et c'est vrai, Hérode, quand il entendait Saint Jean-Baptiste, sa conscience le mordait. Il se rendait compte qu'il était dans le péché, que les paroles de Jean-Baptiste étaient vraies. Il était troublé. Et alors, quand il remontait, parce que Saint Jean-Baptiste était au cachot, tout de suite, la vilaine bonne femme se rendait compte. T'as encore les lois. Tu l'as écouté. Parce qu'elle voyait à son visage qu'il était tout tremblant. Les ennemis, que ce soit les démons, que ce soit les complices du péché, ne veulent pas la conversion, je dirais, de leur proie. Quand bien même ils feraient tout leur tapage, il faut crier plus fort. Et c'est ce que va faire cet aveugle. Plus ils lui disent de se taire, plus il supplie notre Seigneur. Et notre Seigneur va l'entendre, bien sûr, et lui demander, que veux-tu? Que je vois. C'est-à-dire que je sorte de cet état d'aveuglement spirituel, que j'ai cette lumière divine dans mon âme. Et pourtant, voyez-vous, beaucoup de pécheurs, même s'ils ont conservé la foi, restent insensibles à cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ, à cette présence, à ce passage de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce de Dieu frôle quelques millimètres leur âme, mais ils ne réagissent pas. Ah, si notre Seigneur passait à quelques mètres d'eux avec une sacoche remplie de lingots d'or, n'est-ce pas? Vous savez, le lingot d'or aujourd'hui, 55 000 euros, hein, le lingot, ça vaut le coup. Hein. Vous croyez qu'il y aurait un pêcheur pour laisser filer notre Seigneur avec ses lingots d'or? Non. Alors là, tout le monde ramènerait sa fraise. Ah, Seigneur, que je vous aime. Ah, je vous promets de vous être fidèle. Pourvu que vous me donniez un petit machin d'un kilo, là. Hein. Mais ce n'est pas intéressant. Notre Seigneur ne distribue pas des lingots à 55 000 euros. Non. La grâce de la conversion. Un changement de vie. Ah, c'est sûr, faut quitter Ginette. Faut quitter la bouteille de whisky. Faut quitter la violence. Faut quitter le mensonge, l'hypocrisie, l'apostasie, tout ce que vous voulez. Tout le mal. Faut être décidé à faire le bien et à quitter le mal. Et il y en a beaucoup qui butent là. Notre aveugle de l'Évangile ne bute pas. Et notre Seigneur, qui sonde les reins et les cœurs, voit que la conversion de cet homme est sincère. Et il va lui accorder cette grâce de la guérison corporelle. Il va voir, effectivement, et de la guérison spirituel. Et alors, cet homme ne va cesser de remercier, de louer notre Seigneur. Et même les gens qui sont là sont stupéfaits de ce qui s'est passé et vont louer la puissance qu'il y a en notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, voyez-vous, si notre Seigneur ne fait pas des miracles à tout instant, comme ça, visibles, à tout instant, notre Seigneur accomplit des miracles spirituels. La conversion d'un pécheur, la vraie conversion d'un pécheur, c'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose éminemment spirituel et surnaturel. Pour ceux qui ne sont pas aveugles, pour ceux qui veulent bien voir, qui veulent bien entendre, que de miracles autour de nous. Nous sommes là, assis, dans les bancs, dans l'église. Un miracle permanent. Pour ceux qui veulent voir. Le Seigneur dans le tabernacle. En raison de la transsubstantiation, nous devrions voir notre Seigneur. Avec son visage. Avec son corps. Et nous ne le voyons pas, parce que notre Seigneur fait un miracle pour se dissimuler à nos yeux. C'est substantiellement, réellement, que notre Seigneur est présent dans l'Eucharistie. Et il fait un miracle pour que nous ne soyons pas rebutés de nous approcher de la Sainte Table et communier. Une communion sous les espèces du pain, mais seulement des espèces. La réalité, la substance, c'est le corps véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons en permanence, comme ça, en présence de ce miracle de Jésus-Eucharistie, et souvent nous ne réalisons même pas. Alors remercions notre Seigneur de tant de délicatesse, tant d'amour qu'il a pour les hommes et qu'il a pour chacun d'entre nous. Et demandons-lui cette grâce de ne jamais tomber dans l'aveuglement spirituel. Ne soyons pas sourds, ne nous bouchons pas les oreilles. Notre Seigneur, sans arrêt, nous appelle à la conversion, sur tel ou tel point. Ce n'est pas forcément des choses gravissimes, si vous êtes en état de grâce. Mais quand même, le bon Dieu vous appelle à devenir meilleur, plus patient, plus dévoué, plus résigné, plus mortifié, que sais-je, pour supporter votre mari, pour supporter... enfin, il y a plein de choses à supporter toute la journée. Et même la nuit, quand il y a le chien du voisin qui aboie, ou le bonhomme qui ronfle, hein, bon, il y a toujours les boules qui aiment, je remarque. Voilà. Enfin, notre vie est pleine de petites choses qui peuvent nous permettre de nous sanctifier, de nous élever plutôt que de râler et de perdre les occasions de nous sanctifier. Alors demandons à la Très Sainte Vierge Marie qu'elle nous aide à découvrir notre Seigneur dans notre quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.